Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Entretiens gourmands sur la balado avenue.ca. Au micro avec vous, Françoise Genet. Et merci à vous tous d'être là à l'écoute. On est très excités par cette nouvelle expérience des balados avenue.ca. On avait envie d'essayer ça et pour l'instant, c'est vraiment agréable. Alors, quel plaisir de mordre dans un fruit bien juteux et sucré. Les formes, les couleurs, les saveurs, les fruits, c'est presque des bonbons naturels. En plus, c'est bon pour la santé, alors un plaisir permis. Mais leur saveur, leur grosseur, l'importance qu'ils ont dans la culture varie d'un pays à l'autre. Il y a des fruits rares, des fruits chers, même des fruits qui puent. Eh oui, on parle donc de fruits dans tous leurs états avec Hélène Laurendeau. Je prends 2 minutes avant de lancer notre entretien pour vous rappeler qu'avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que nous enregistrons les épisodes de notre balado dans le studio de Montréal Cowork. Bonjour Hélène.
Bonjour Françoise.
On parle d'un sujet juteux, sucré, coloré.
Absolument. Puis en fait, c'était en discutant avec toi, on se racontait tellement d'histoires de fruits que d'où l'idée de cet épisode, histoire de fruits. Parce que bon, pour moi, le fruit, c'est, tu sais, puis c'est cliché de dire ça, j'écoutais ton introduction, c'est un cadeau de la nature. Et pour moi, c'est à ce point parfait que ça n'a pas besoin de plus ample présentation, c'est-à-dire qu'un fruit parfaitement à point, c'est peut-être une des choses les plus délectables. Et pour moi, ça a même le statut de dessert. Maintenant, on pourrait en débattre longtemps, il y en a pour qui c'est pas un dessert, un fruit, mais cette anecdote m'est revenue en tête. Mon premier voyage en Italie, je suis assise dans un restaurant à Florence et on est tout un groupe de femmes, un peu excitées là, d'arriver en Italie. Et à la table à côté, il y a un monsieur d'un certain âge.
Un bel Italien.
Un bel Italien, tu sais, sa belle veste. Il est en train de finir sa demi-bouteille de vin. Tranquillement, il est tout seul à tabler et à un moment donné, le garçon lui apporte une poire. Et le monsieur sort son petit couteau tranquillement et se met à peler la poire en finissant son petit verre de vin rouge. Et je le regardais, je le trouvais tellement sexy et je me disais, mon Dieu, chez nous, jamais tu verrais ça. Ou en fait, tu sais, non, je verrais pas ça. J'ai jamais vu mon père se peler un fruit à la fin d'un repas. Et je trouvais que c'était le symbole de peut-être du statut qu'on accordait à ce fruit-là dans cette culture. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué.
Mon père, lui, il coupait ses pommes au couteau. Donc, il s'assoyait après l'avoir bien essuyé. Et avec son petit couteau, il y avait toujours son couteau de poche là, tu sais, qui sortait. Et là, il coupait la pomme en beaux quartiers. Et il en prenait un à la fois. Et tu le sentais, là, il fermait les yeux quand il mettait le quartier de pomme dans sa bouche. Ah, puis ce geste-là, je l'ai retrouvé un peu partout en Méditerranée. Les gens assis avec un petit couteau en train de couper un fruit ou en train de le peler. Et tu as raison, c'est vrai que c'est sexy. C'est quelque chose de très sensuel.
C'est ça, en fait, de sensuel. Et puis, encore une fois, du statut qu'on accorde à cet aliment-là. T'sais, ici, on va s'éblouir devant toutes sortes de plats ou toutes sortes de mets. Et je ne juge pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que le fruit mérite absolument tout l'amour qu'on peut lui accorder. Puis, tu parlais des pays méditerranéens. C'est fou comme j'ai vécu ça, par exemple, en Crète, en Grèce, même au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, en Turquie, où, par exemple, on va te servir. Le fruit est offert au restaurant. Tu ne l'as pas commandé, tu ne le payes même pas. On t'apporte un verre de raki, leur espèce d'alcool un peu anisé là-bas, avec les fruits du moment. Ça peut être une grappe de raisin, ça peut être un morceau de pomme, ça peut être un kaki, peu importe. Et je trouvais ça tellement beau parce que c'est comme une offrande.
Complètement. Et un plat méditerranéen, du moins au Moyen-Orient, ne se termine jamais sans qu'un beau plateau de fruits soit déposé sur la plage. Et je parle de... C'est plus spectaculaire. Là. Oui, il y a en abondance, en couleur, mais le plateau de fruits est déposé sur la table. Eux voient ça comme un dessert. Là.
Ben oui, tout à fait.
Une sortie de repas, en tout
oui,
cas.
Oui, une sortie de repas. Alors que, tu vois, j'ai une image là, de ce plateau magnifique avec du melon juteux puis plein de belles choses. Et à l'opposé, je trouve ça tellement déprimant quand, dans les certains banquets déjeuners ou de certains hôtels ou de restaurants, tu sais, là, tu viens pour manger ton assiette déjeuner et il y a 365 jours par année, le même maudit tranche de melon, là, dur.
Pas mûr. Qui goûte le frigidaire.
Qui goûte rien. Tu sais, comme t'as le melon croquant, t'as le qui est encore verdâtre, le cantaloupe qui est pas mûr, le quartier de pamplemousse qui peut être amer parce que c'est pas la saison, on sait pas trop d'où ça vient. Et je trouve ça tellement déprimant. Puis je sais que c'est difficile d'arriver à...
De gérer le fruit.
C'est ça.
Parce que ça se gâte rapidement, ça noircit, ça s'oxyde, etc.
C'est ça, tu sais, donc d'arriver à avoir le fruit parfait, c'est pour ça que moi, c'est un vrai cadeau. Puis quand je dis parfait, je parle pas de l'apparence du fruit. Puis c'est intéressant parce que quand on fait des dégustations avec, tu sais, auprès du grand public, puis tu offres, par exemple, des cerises rouges et des cerises, la cerise Montmorency qui est un peu plus jaunâtre, ben les gens vont beaucoup associer le rouge au sucré et vont penser que la cerise rouge est plus sucrée, alors que c'est souvent l'autre qui est plus savoureuse. Alors, c'est pas une question d'apparence, faut aller au-delà de ça, mais la saveur en bouche, c'est complètement autre chose. Puis, c'est drôle parce que, comme nutritionniste, tu comprends que le fruit, c'est sûr que c'est au centre de...
Tu es même ambassadrice.
Ben oui, c'est vrai que je suis ambassadrice du mouvement J'aime les fruits et légumes, parce que les fruits, ça fait partie de ma vie et de ma profession et de la transmission que j'ai voulu faire à mes enfants. Et j'ai observé un phénomène que j'ai surnommé le syndrome du gros fruit.
Ah!
Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai observé que, mettons que tu vas à l'épicerie...
Ça n'a pas l'air grave parce qu'elle me sourit en le disant, alors...
Non, mais tu comprends, c'est que je ris à l'avance de ce que j'observe. Parce que ça m'est arrivé à moi aussi d'être victime du syndrome du gros fruit. C'est que tu achètes un ananas, OK? Ou un gros fruit, là, un melon de miel, un cantaloupe, une papaye, bon... Puis tu mets ça sur ton comptoir de cuisine. Veux, veux pas, il y a quelqu'un qui va devoir se sacrifier pour sortir la planche, sortir le couteau, avoir les doigts collés, préparer le fruit pour lui et pour les autres. Et là, tu sais, tu as cet ananas qui est sur le comptoir de cuisine que tout le monde voit. Tout le monde passe à côté, tout le monde va dans le frigo chercher quelque chose. Et personne n'ose s'attaquer à la chose qui est là. Puis là, tout à coup, ben là, il change un peu de couleur, puis il se met un peu à jaune. Puis là,
il ratatine.
Il ratatine. Puis là, tu dis, il faudrait bien que je m'en occupe. Et c'est typique de, tu sais, de devoir se sacrifier pour un effort qui va être largement compensé après. Mais c'est souvent la mère de famille, en tout cas, dans mon cas, c'était ça, qui, à un moment donné, le regardait. Puis... Et je me disais, tu vois, au souper, par exemple, quand je demandais aux enfants, est-ce qu'il y en a qui voudraient un fruit comme dessert? Bof, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de cri de joie, là, tu sais, par rapport à est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait un morceau de gâteau au chocolat. Mais quand tu ne dis rien et en amont, tu prépares le fruit ou la belle assiette de fruits, comme tu parlais.
Et que tu la déposes devant eux.
Tu dis rien, là. Tu déposes ça sur la table. C'est sûr que ça va se manger. Tout le monde va piger dedans. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, les fondus au chocolat, c'est...
ont un grand succès avec les enfants aussi.
Exactement, parce que c'est très correct de tremper dans un peu de chocolat parce que tu vas manger 2-3 fois plus de fruits parce que ben, t'es dans le plaisir.
Tout à fait.
Et t'as pas besoin de dire, ben c'est santé de faire ça, là.
Tout à fait.
Par la force des choses, ils vont en manger.
Tu as raison de parler de le préparer pour pouvoir l'offrir, parce que c'est une offrande. Dans certaines cultures, c'est presque un cadeau, là. Mais c'est souvent un geste d'amour, un geste de tendresse, un avec l'autre. Ah. Alors, bon, je parle souvent du Liban, parce que c'est mon expérience, j'y ai vécu quelques années, mais j'ai vu ce geste-là aussi en Italie, à Chypre, en Palestine... Alors là, tu es à la table, on est en train de discuter, et souvent, il y a des fruits sur la table, il y a des trucs de saison à grignoter ou des fruits, ou à la fin d'un repas. Et là, quelqu'un dans la tablée. Ça, bien sûr, ça peut être un geste très sensuel, très amoureux de flirt.
Oui,
ou de,
hein?
Okay. Oui, tout à fait, le gars qui te fait de l'œil, qui va te préparer un fruit. Mais c'est aussi la grand-mère envers son petit enfant ou la nièce envers sa tante. C'est juste un geste, un clin d'œil de tendresse. Alors, la personne te regarde tout en jasant, tout ça. Elle prépare le fruit, elle le découpe et tout ça. Et la petite bouchée parfaite, elle te l'attend pour que tu te la mettes en bouche comme ça. Et il y a tout dans le regard et dans le geste, cette offrande. Moi, ça m'a toujours touchée, ce geste-là. Peut-être parce que ça me rappelait mon père qui coupait les pommes.
Oui.
Mais vraiment, il y avait... C'était... Ils vont te préparer une petite bouchée, même d'autres choses. Par exemple, dans les mets, ils vont prendre autre chose. Mais dans le fruit, ils le font particulièrement, systématiquement, là, avec les gens qu'ils aiment autour. Ils préparent quelque chose et ils te l'offrent.
C'est beau, mais c'est ça rejoint ce que je disais.
Tout à fait,
hein?
tout à fait.
Le prépares pour l'autre et puis l'autre va se délecter de la meilleure partie, en fait, du fruit, que ce soit des figues, que ce soit... Peu importe. C'est quand on voyage qu'on se rend compte aussi, tu sais, dans les pays où les fruits poussent, c'est-à-dire que, bon, les Québécois, on connaît nos fruits, on connaît nos pommes, on connaît nos petits fruits, on est bon là-dedans.
On est très bon là-dedans.
Et on est fiers.
Tout à fait.
Avec raison.
Tout à fait.
Nos fraises, là,
parce que, justement, vu qu'on parle du Moyen-Orient ou de la Méditerranée, ils en ont des fraises. Alors ça, c'est une, je vais le dire, mesdames et messieurs, j'y arrive, une expérience assez décevante parce que tu te mets, c'est gros, c'est rouge, tu penses que ça va être, comme tous les fruits du pays, très bon, mais finalement, c'est très fade.
Il y a pas, oui.
Et la pomme, souvent, ils ont une ou deux variétés, alors qu'ici... Et eux autres, ils ont la pomme plutôt poire, mais nos pommes. Combien de variétés de pommes, est-ce que tu le sais?
Je ne sais pas.
Mais il y en a
des dizaines.
Oui.
Et puis, encore après toutes ces années de métier, je découvre de nouvelles variétés. Et les producteurs vont aller développer des nouveaux cultivars qui vont avoir des caractéristiques plus acidulées, plus sucrées, qui vont moins s'oxyder à l'air, qui sont plus croquantes, plus tendres, qui vont compoter, qui vont garder leur forme. Tu sais, c'est... absolument merveilleux.
On a du cantaloup aussi. On arrive à faire de la production de cantaloup,
Oui. Ah oui, il y en a à Laval, mais il y en a ailleurs aussi au Québec. Oui, on fait des beaux melons maintenant. J'ai vu des melons, par contre, complètement fous. Tu parlais en ouverture des melons, des fruits très chers. Au Japon, alors, encore une fois, le fruit, c'est quelque chose qu'on vénère, mais ça coûte une fortune. Et là-bas, ils ont même élaboré un espèce de melon, je parle de la pastèque, là, le melon d'eau, comme carré ou rectangulaire. Là, ils font pousser. Ça vaut des centaines de dollars. J'ai vu dans les marchés au Japon, à Kyoto, à Tokyo...
Mais ce qui est particulièrement bon, quoi?
Je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté. C'était tellement cher. Tu vas avoir une barquette, tu as 5 cerises, mais elles sont... la perfection incarnée. Et j'ose croire qu'au goût, elles sont aussi formidables. Oui, ça peut coûter très, très, très cher. Alors que, tu vois, dans les rues à Istanbul, tu as le marchand de melons d'eau qui est là, puis tous les enfants à la sortie de l'école vont s'arrêter au kiosque de fruits. Et puis, ils vont continuer à jouer et puis à se courir après, puis c'est tout à fait normal. Puis moi, je regarde ça, puis ça me fascine parce que quand tu vas dans les pays chauds, dans les pays tropicaux, dans l'Asie du Sud-Est, là où il y a beaucoup, beaucoup de tous nos fruits exotiques qu'on achète ici, ça pousse là-bas. Moi, j'aime, Françoise, bien là, tu me connais, mais j'aime aller voir l'aliment là où il pousse.
Oui.
Ça vaut pour les fruits, mais ça vaut pour tout le reste.
Oui,
tu sais?
Et quelle bonne idée si vous êtes dans un pays étranger et que vous en avez la chance d'aller dans un verger ou une plantation des fruits locaux. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui égale de cueillir un fruit chaud de soleil, le rincer un peu et se le mettre en bouche, directement de l'arbre.
Comme je te regarde, là, puis t'es là-bas, là.
Oui, complètement.
Puis t'es ailleurs.
Je suis dans les nefs, là, je suis...
Alors, les nefs, parle-en, parce que c'est pas connu, ça, ici, les nefs.
Bien, peut-être que si vous fréquentez les épiceries spécialisées moyen-orientales, ça peut arriver que vous en voyez dans les étalages de fruits et légumes. Le problème de la nef, c'est un petit fruit, qui se rapproche un peu de l'abricot, mais dont la chair est plutôt celle d'une nectarine. Elle est plus juteuse que celle d'un abricot. Mais c'est à peu près la taille d'un petit abricot. Il y a deux ou trois gros noyaux là-dedans. Alors, il y a une technique pour le manger, pour expulser le noyau et après bien profiter de la chair. Mais c'est un fruit qui ne supporte pas le transport, donc qui s'exporte mal, même à l'intérieur du pays. Ça se mange sur le marché local. C'est en saison particulière. Il faut voir quand les plantations de nèfles sont en fleurs. Ah. Ça sent, c'est enivrant. Et bon, ben oui, je suis debout dans le verger et avec mon amie Gwendalina et ses enfants. Et je mange des nèfles à même... Ben oui, on se gave carrément. J'ai fait ça avec les cerises dans le village de mon grand-père à Chebar. Des cerises là, directement à t'en péter la panse de cerises. Tu te lâches lousse dans la cerise. C'est... Puis il y en a de toutes les couleurs. Tu parlais un peu plus jaune, mais les autres, ils ont des petites roses pâles, des plus foncées. Bon, alors, c'est extraordinaire. Mais même le raisin, j'avais une pergola avec du raisin qui pendouillait. Ah, le fruit chaud, là, le fruit chaud. Qui vient d'être cueilli ou que tu cueilles toi-même, puis le plaisir de tous les enfants. Moi, je me rappelle quand on était jeunes ici, on allait, par exemple, voler des lilas au printemps. C'est vrai, on offrait des beaux bouquets de lilas à nos mères qu'on avait
emprunté chez le voisin.
Emprunté chez les voisines du coin. Alors, les enfants libanais, eux, leur trip, c'est d'aller prendre un fruit dans l'arbre du voisin ou dans l'arbre sur la route.
Il est meilleur.
Il est bien meilleur.
Parce que t'as pas le droit.
C'est ça. Le fruit interdit. C'est le cas de le dire.
Exact. Puis tu parles d'être enfant. J'ai entendu une entrevue avec Dany Laferrière qui racontait que chez sa grand-mère, il y avait un manguier, on est en Haïti. Et puis, il dit, attends, mais vous comprenez pas, parce qu'il riait de nous, les Nord-Américains, quand on mange nos mangues avec notre couteau, notre fourchette, qu'on sait pas trop quoi faire avec ça. Il dit, non, t'as pas besoin d'aucun ustensile pour manger des mangues. Non seulement ça, il dit, ma grand-mère nous chicanait parce qu'on avait... Elle se faisait un point d'honneur d'avoir des T-shirts bien blancs, tu sais, bien séchés au soleil. Et il dit, elle nous chicanait parce qu'elle voulait qu'on enlève nos T-shirts avant de se gaver de mangue. Et il dit là, ça, c'était tellement juteux, ça dégoulinait dans le cou, sur le torse. Et après, il fallait qu'on aille à la mer pour se rincer de tout ce jus de mangue.
C'est comme ça que c'est bon. Et c'est ce qu'on faisait pour les grenades. Bon, on ne se mettait pas torse nu parce qu'on était des adultes, mais on se mettait un vieux T-shirt. Ça, c'est clair qu'on mettait le T-shirt que ça ne dérangeait pas de te tacher parce que la grenade, on le sait, est délicieuse, mais elle tache. Il y a deux variétés. Hein? La grenade, là, si vous allez... il y a la grenade un peu plus sucrée et une grenade qui est un petit peu plus acidulée. Personnellement, je préfère l'acidulée, mais les deux sont excellentes. Alors, moi, j'en avais un grenadier là, qui terminait ma terrasse. Alors, on s'installait avec des gros plats, chacun un gros plat à nos pieds. Et là, c'était le party de grenades. Alors, tu écorces ça à main nue et tu sépares les quartiers et tu manges ça. Et là, évidemment, il y en a partout et tout est rouge. Mais c'est...
Moi, je prends un petit couteau, comme j'y coupe un peu un tour de tête, là, comme une couronne. Puis ensuite... Tu vois les filaments qui séparent les sections. Puis là, ensuite, tu peux faire une petite... mais tu sais, je parle comme une grande connaisseuse. Mais toi, tu me disais que les fruits au Liban, c'est explosif. C'est comme le pays.
Oui, je vais y revenir, mais je veux juste terminer pour les grenades parce que c'est quand même un fruit maintenant qu'on peut se procurer assez facilement au Québec. Grenades sont en importation en grande quantité.
Oui. Vous savez que Californie, beaucoup. Oui.
Alors, je vous donne un petit truc. Par exemple, la grenade agrémente très bien un riz. Alors, vous servez un riz un soir avec une viande de porc, par exemple, ou une viande de poulet, une volaille. Puis même dans la farce à Noël, c'est très, très bon de mettre des grenades. Donc, vous égrenez les petits grains de grenades. Vous ne les faites jamais cuire. Vous ne les mettez qu'au moment de servir.
Ah, que c'est beau.
Alors, ça va texturer votre riz. Ça va y mettre une petite couleur de rubis très belle. C'est très bon aussi d'en saupoudrer dans des salades. C'est très, très bon. Alors, ça, là, vraiment, ça rajoute un petit sucré au goût de la salade. Puis c'est très
texture,
joyeux.
Une texture
légèrement croquante qui explose en bouche, très juteuse. Alors, la grenade, puis c'est pas pour rien que l'arme s'appelle la grenade. On a inventé une arme qu'on a appelée la grenade parce que, justement, ça explose en bouche, la grenade.
Oui,
alors, voilà, ça, c'était mon petit... Oui, t'as raison. Oui, les fruits, ça parle de qui on est. de qui on est comme peuple, de ça nous ressemble.
Ah.
Moi, j'ai toujours trouvé que tu sais là, le climat, la géoclimatique, le géoclimatique, ouais, tous ces paramètres-là forgent la nature d'un peuple. C'est sûr que quand tu fais moins 20, t'arrêter sur le coin de la rue pour jaser avec ton voisin, c'est moins évitant. Nos grands-parents habitaient à 1 kilomètre du prochain voisin dans le rang, ça aussi ça facilite pas les rapprochements, etc. Donc là-bas, il fait chaud. Donc, tu peux toujours... Dans tous les pays chauds, hein, ce que je dis là n'est pas valable que pour le Liban. Je l'ai vu dans tous les pays chauds où j'ai voyagé. Donc, c'est sûr. T'as toujours, c'est toujours agréable de t'arrêter parce qu'il fait bon, il fait chaud, t'es bien. Déjà, les gens se parlent plus. Mais la première fois que j'ai compris qu'il y avait une relation entre la terre, quand je parle de... C'est la terre du pays et la nature d'un peuple, c'est quand j'ai mordu dans ma première pêche et qu'elle m'a... littéralement explosé dans la bouche de saveur, de jus. Sa chair était chaude, moelleuse.
La peau un peu veloutée. Là.
Un trip d'une sensualité rare. Elle était énorme, d'ailleurs, la pêche en question.
Est-ce que c'était érotique?
Oui, carrément. Carrément. Ça dépend avec qui tu le manges, remarque, mais tu sais, le plaisir de bouche, ça peut aller très loin. Mais oui. En tout cas, ça, c'était vraiment... Et en mangeant ça, les yeux m'ont fermé, je me suis dit... « Oh my God, je viens de comprendre, ils sont comme leurs fruits. Ah. » Parce qu'au Liban, tout est exagéré dans le sens où il y a des montagnes qui culminent à 3500 mètres d'altitude et le littoral quand fait même rarement plus qu'un kilomètre de large, sauf pour la pointe de Beyrouth ou de Tripoli. Mais le reste, le littoral n'est pas très large et tout de suite, les montagnes commencent. Ça culmine à 3500 mètres, fait que ça, c'est pas de la petite montagne, on parle
énorme.
Pas de butte. Là. Non, en haut, il n'y a plus de végétation, t'es dans les nuages.
Oui,
là,
sur le glacier,
ça. Oui. Puis les oreilles te bouchent un peu quand tu montes. Et là, il y a une descente vertigineuse, une petite vallée, et whoop, on remonte avec le mont Anti-Liban, qui est de l'autre côté. Donc, deux chaînes de montagnes très, très explosives elles-mêmes. Le soleil, c'est 8 mois par année, mais il te mord, il te mange, c'est le soleil que... J'ai déjà dit à des Libanais, vous savez pas c'est quoi le printemps, il faut avoir connu un univers comme les nôtres pour comprendre la douceur d'un printemps. Ah. Eh bien, là-bas, j'ai appris la douceur de l'ombre. Parce qu'il faut avoir été mordu par le soleil d'Orient pour comprendre la fraîcheur, le bienfait de l'ombre.
Et du fruit, parce que, tu vois, pour les Asiatiques...
Parce que c'est très, très désaltérant.
Oui, tu sais, les pitayas, là, c'est le fruit du dragon, là, qui est rose fuchsia. Quand tu le coupes, c'est un peu insignifiant à l'intérieur. C'est blanc, ça ressemble à un kiwi blanc avec des petites graines noires. Et je demandais à ma voisine qui
mais est-ce que c'est bon, dis-moi?
Ben, c'est ça. Non, ça goûte pas grand-chose. Alors,
d'accord.
Le fruit est plus beau qu'il est bon.
Ah.
Mais mon voisin qui est vietnamien me disait, au Vietnam, c'est un fruit qui sert d'hydratant un peu comme tu voudrais boire une limonade fraîche ou manger un melon d'eau. Alors, il disait, on le met 30 minutes au réfrigérateur. Puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose de désaltérant plus que de super sucré ou parfumé.
Oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'effet.
Mais c'est ça. Alors, eux, leurs fruits, ils sont explosifs, colorés, un peu exagérés. quand tu te mets ça dans la bouche, c'est extraordinairement bon, leurs raisins, etc. Mais ça leur ressemble. Et c'est le peuple libanais comme ça, exubérant, extraverti, pétillant, parfois explosif, malheureusement.
Oui.
Je fais pas de blague,
oui,
parce
non,
que pauvre Liban.
Ouais.
Mais aussi en Méditerranée, là, on pourrait dire ça des Italiens, de la Grèce, de l'Espagne.
Oh mon Dieu, oui. Bon, j'ai mangé des figues qui explosaient presque de miel, tu sais, puis les Italiens sont connaisseurs, là, puis on valorise le fruit. Mais à l'opposé, je te dirais, mettons, chez les Asiatiques, tu sais, pendant le Nouvel An chinois, on va offrir des fruits sur l'autel des ancêtres, c'est-à-dire l'autel, pas l'autel où tu vas rester, l'autel AUTEL, mais dans la maison, on va avoir un endroit, parfois dans la salle à manger, où on va offrir sur des petites planches de bois, des fois il y a le nom des défunts, ou il y a la photo d'un ancêtre qui est décédé, et on va placer des fruits avec des gâteaux du Nouvel An, puis d'autres petites boucher, mais on va mettre ça, puis on va mettre des bougies ou des bâtons d'encens qu'on va incliner en signe de gratitude, puis en signe de reconnaissance, tu sais, envers nos parents ou nos aînés qui nous ont quittés. Je trouve ça très, très beau comme rituel. Puis pendant les jours qui suivent justement le Nouvel An, ben, tu sais, dans les visites des familles, aux proches, aux amis, les fruits, c'est hyper important, entre autres les clémentines qui sont des symboles de chance, de bons présages. Alors, on en mange beaucoup et en grande quantité. À l'opposé d'un autre fruit asiatique qui, lui, on n'en mange pas en si grande quantité, à moins d'être absolument un grand fervent amateur, c'est le fruit le plus nauséabond au monde.
Alors, le fruit qui pue. Pas le fruit qui tue, mais le fruit qui pue.
Le fruit qui pue, qui est aussi parmi les plus chers au monde, mais le durian.
Aussi le plus cher.
Ben, c'est dans les fruits très, très chers, exactement.
Comment tu l'as appelé?
Le durian. D-U-R-I-A-N. Des fois, durio aussi, qu'on appelle. Alors, on dit que ça a le goût du paradis, mais ça a l'odeur de l'enfer.
Oh! Mais ça vient d'où, là?
Ça vient de Malaisie, de Thaïlande, de Singapour, du Sri Lanka. On est de ce côté-là. Okay. C'est un fruit que les gens ont essayé de décrire du mieux possible. Cette odeur qui est presque impossible à décrire, tant c'est un mélange de choses
malodorantes.
Étranges. Bien odorante et malodorante même temps. Okay, et c'est ce qui rend la chose si intrigante. Je te dirais que... Alors, Anthony Bourdain, tu sais, qui est ce grand chef qui est décédé malheureusement, mais disait que manger du durian, ça te donne une haleine comme si tu avais embrassé ta grand-mère qui était morte dans sa tombe. Mais c'est une... Donc, ça a une odeur, le fruit, mais ça en laisse sur les doigts et ça en laisse dans la bouche.
Ah oui, quand même.
Et c'est à ce point odorant que c'est interdit dans les hôtels, dans les taxis, dans les transports publics.
Mais c'est malodorant avant même qu'on le coupe ou qu'on le...
Oui, tu peux même le sentir
sur l'arbre,
à distance.
Ah oui, d'accord.
Alors, je te le décris. C'est un gros fruit que ça doit faire au moins 30 cm de longueur. Tu dois le prendre avec tes deux mains, sauf qu'il est recouvert de pics, mais vraiment pointus.
Mais quelle bébite!
Comme une bébite. Et ça pèse entre 1 et 4 kilos. Donc, mais tu peux vraiment, c'est très, très acéré, là, ces petits pics-là. Tu peux te blesser les doigts. Donc, il faut savoir comment le récolter. Ça tue du monde, là, je veux dire, littéralement, quand ça tombe. Quand le fruit est à point, il commence à se craquer à une extrémité. Et l'odeur, c'est un mélange... Bon, je vais essayer. C'est un mélange de... On va commencer dans la partie plus agréable. Costard, pudding, vanillé aux amandes, tu vois?
Bon. OK.
Mélanger avec, je sais pas moi, une sauce à l'oignon pourri, à un vieux vin, puis un fromage puant.
Hi là là!
Tout ça mélangé ensemble, ça ne laisse pas indifférent. Et par contre, une fois qu'on ouvre cette chair très piquante, à l'intérieur, il y a comme 5 ou 6 grosses sections. Et c'est crémeux, c'est onctueux, ça se mange à la cuillère.
Fait que ça se mérite, par contre.
Ça se mérite, oui, oui, oui. Et on vole beaucoup le... Si vous voulez, parce que t'aimes rarement ça la première fois que tu en manges. En fait, c'est drôle, c'est parce que c'est comme les sushis où je connais bien des gens qui ne sont pas tombés en amour avec les sushis la première fois. C'est à la deuxième ou la troisième fois que là, tout un coup, là, ça devient un peu... Ou manger des piments, tu sais, tu deviens avec une espèce de rapport amour-haine avec la chose. Et moi, étonnamment, j'aime ça, le durian. Parce que la première fois que j'ai goûté, c'était avec de la crème glacée ou des sorbets, où on va les servir dans une espèce
de frappé. Mais est-ce que la crème glacée pue, elle aussi?
Tu le sens, tu sais, c'est sûr.
Même.
Puis ici, dans le quartier chinois, par exemple, à Montréal, on peut en trouver des fois congelés. Donc, c'est déjà ça limite un peu. Mais les vrais amateurs vont dire qu'il n'y a rien comme... Tu sais, que congelé, c'est à peu près 80 % du plaisir, du goût, si tu le manges frais. Mais c'est vrai que c'est interdit et c'est même susceptible de... Tu vas payer l'amende si tu apportes ça dans ta chambre ou dans un transport en commun. C'est à ce point-là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, par exemple, je pense qu'en Indonésie, on va le servir avec un riz gluant avec de la noix de coco. Mais, tu sais...
un fruit puant et un riz gluant, ça va pas bien.
On est dans les sensations.
Ben oui.
Mais tu sais, c'est drôle parce que c'est tellement culturel. Tu sais, je veux dire, un Français qui débarquerait avec son époisse de Bourgogne, son fromage hyper odorant, un Asiatique, ça le répulserait. Alors que, tu sais, l'inverse, ça marche aussi. Mais en tout cas, mais tout ça pour dire que moi, donc ça, c'est...
Mais je t'écoute raconter ça. Tu y as goûté. En fait, il faut être un peu aventureux. Bon, peut-être que vous n'êtes pas obligé de goûter au durian, absolument.
Non,
mais il faut être aventureux. Maintenant, dans les étals des fruits épiceries et des marchés,
oui.
Il y a quand même beaucoup de produits d'importation. Bon, évidemment, on peut toujours se poser la question sur le poids écologique de l'importation de tous ces fruits-là, mais en même temps, ça fait aussi vivre les producteurs de ces pays-là.
Oui.
Mais en tout cas, ils sont là, ils sont disponibles. Alors, de toute façon, ils sont rendus chez nous. Essayons au moins d'y goûter. Peut-être que c'est ça. Est-ce qu'on est assez aventureux au Québec ou on est trop traditionnel? Est-ce qu'on ose?
Oui, on ose. On est curieux. Et puis, on ose. Puis, des fois, dans une salade de fruits. Mais il n'y a rien comme... Tu sais ce que tu disais? Quand tu es initié par quelqu'un qui s'y connaît, c'est toujours plus rassurant que de t'avancer sur quelque chose. Mais tu sais, en même temps, tu dis, bon, c'est un fruit. Tu sais, mais c'est intéressant parce que si les gens sont curieux, il y a toujours la possibilité d'aller dans la serre des plantes tropicales alimentaires au Jardin botanique de Montréal. Je sais que tu adores le Jardin botanique.
Ah, le jardin.
Tu aimes aller te promener là.
Une vraie passion pour moi.
Et moi, j'ai découvert la serre des plantes tropicales alimentaires parce que j'aime voir comment ces fruits-là poussent. Parce que tu disais, on les achète à la fruiterie, mais des fois, c'est étonnant de voir, tu sais, par exemple, bon, c'est pas un fruit, mais un artichaut, tu sais, c'est un chardon, là. Et puis, le fruit, c'est le fruit de l'arbre, mais il y a d'autres portions de l'arbre ou de l'arbuste qu'on va manger, que ce soit les racines, l'écorce, les feuilles. Alors, on peut aller voir un régime de bananes quand tu es un enfant, puis que tu vois... D'abord, que des bananes, ça pousse comme à l'envers. Tu sais, les bananes, ça pousse comme vers le haut. C'est comme contre la gravité.
Il y a aussi les petites bananes. Hein? Je ne sais pas si tu connais les petites bananes. Ben, au Liban, il y en a, mais il y en a dans d'autres
Crète,
pays.
Il y en a
exactement.
Dans les Antilles.
Mais là, les arbres ne sont pas très hauts. Alors, moi, la Nord-Américaine qui n'a jamais vu de bananier en vrai, je me présente là. Et là, je vois des arbustes d'à peu près 5 pieds de haut, 6 pieds de haut, avec d'énormes feuilles. Genre, c'est quoi ça? Mais c'est des bananiers. Hein? Des bananiers? Non, je ne comprends pas. Tu sais. Mais oui, parce qu'eux, ils ont des petits régimes de bananes, de petites bananes qui font à peu près 6 pouces de long, 4 pouces de long.
Oui.
Et elles sont tellement délicieuses. Et on en trouve maintenant sur le commerce québécois.
Oui, parce que tu sais, la banane Cavendish, qui est la banane qui est la plus consommée au monde, là, cette grosse banane qu'on achète.
La Chiquita, là. Pourquoi la nommer,
c'est
là?
C'est ça, la Dole, la Chiquita, toutes ces grandes compagnies multinationales. Mais c'est dommage parce que, bon, ça, c'est un autre sujet d'un autre épisode.
Évidemment.
Mais, là, c'est les monocultures, c'est qu'on cultive que ça parce que ça voyage mieux,
dangereux.
Ça transporte mieux.
Et voilà.
Mais quand on va ailleurs, tu sais, les mangues, il y a des petites mangues Julie en Guadeloupe, en Martinique. Des mangues miniatures, mais tellement savoureuses. C'est comme un parfum. Tu aurais le goût de te le mettre là, en dessous, tu sais, dans le cou, tellement c'est parfumé. Et ça vaut pour plein d'autres fruits, tu sais, les agrumes, les caramboles, les dattes.
J'ai même envie de dire, ça peut même être une activité de cueillette, parce qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on fait, qu'on ouvre les plantations, les vergers aux cueilleurs qui veulent venir cueillir leurs fruits. Ça peut être agréable en voyage, ça peut être une façon intéressante. Ah, oui. On fait la route des vins, là, on va parler, nous, de la route des bières bientôt. Mais faire la route des fruits peut être aussi bien intéressante, aller passer une journée à cueillir des fruits. Et c'est comme ça que tu aurais pu apprendre, par exemple, toi et Hélène, que les olives, ça se mange pas dans l'arbre.
Écoute, je t'envoyage.
Je vous le conseille pas, mesdames et messieurs.
Non, mais c'est trop drôle. Alors, tu t'en souvenais, souvenu. Voyage de noces et puis on est en Provence. Et puis là, c'est la première fois de ma vie que je vois un olivier avec des olives sur l'arbre. Et je dis à mon mari, et puis ça, c'était avant l'iPhone, là, tu sais. Je dis, fais une photo. OK, je veux une photo de moi. Alors, je m'approche avec ma robe, tu sais, là.
Bucolique, romantique.
Je m'approche de l'olivier et je dis, t'es prêt, là, Jean-Pierre, t'es prêt? Puis là, OK, go. Puis là, je prends une bouchée, une croquée de l'olive. Ben,
mais
d'abord,
tes dents ont résisté, déjà,
Je sais pas comment j'ai fait. D'abord, parce que les olives qu'on mange, bien sûr, elles ont été traitées, marinées. En tout cas, il y a des étapes avant de manger une olive. Elles ont vieilli. Alors là, d'abord, c'était dur. C'était astringent au point où ma bouche a rapetissé, là, tu sais, comme ça, là, puis là, tu fais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai tout essayé, François, ça a duré 2 jours. J'ai mangé du pain, j'ai bu de l'eau, j'ai croqué quelque chose d'autre, du fromage. Rien n'y faisait. Alors, non, les olives, ce sont de beaux fruits, mais vous les laissez sur l'arbre et vous attendez qu'on vous les serve tendresse.
Oui, c'est ça. Si vous avez l'occasion d'aller cueillir des olives dans un pays d'oliviers, faites-le. Les récoltes se font généralement en septembre. C'est un peu le même trip là, que les gens faisaient d'aller faire un peu les vendanges,
oui,
par exemple, en France ou en Italie.
Jusqu'en novembre, hein, je te dirais, selon
de septembre à novembre, selon les pays. pays. Il faut porter des manches longues pour ne pas se graffiner, là, se gratigner les bras là, avec les petites branches, mais c'est très, très agréable. Mais je te propose un rendez-vous gourmand, là, un entretien gourmand sur ces aliments, ces trucs rares qui coûtent souvent très cher. On ne sait pas pourquoi. On pourrait en parler. Je pense à la noix de pin, je pense aux olives.
Oh, grand plaisir.
Oui, à toutes sortes de fruits ou de légumineuses ou de noix comme ça qu'on ne connaît pas assez ici. On ne comprend pas le processus de fabrication.
Avec grand plaisir.
Ça a été encore tellement agréable. Mais on parlerait de fruits longtemps. Hein? Il y avait encore plein de choses qu'on ne s'est pas racontées. C'est extraordinaire. Entre-temps, mesdames et messieurs, savourez, croquez. C'est juteux, c'est jouissif, c'est coloré. Et avec l'hiver qui commence bientôt...
C'est vitaminé, on en a besoin.
Oui, ça prend du soleil dans notre bouche à défaut de l'avoir dans notre maison. J'en profite pour remercier à la réalisation Charles Thompson, le Duc. J'ai failli oublier ton deuxième nom de famille. Je rappelle que Avenue Poisson est une initiative du réseau FADOC. On va se retrouver bientôt sur une nouvelle balado, un autre entretien gourmand avec Hélène Laurando. Les liens qui sont à cliquer au sujet de ce dont on peut avoir discuté pendant la balado sont dans le descriptif de cet épisode. Et vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de balado que vous connaissez. Alors, merci d'être là. À bientôt. Bye, Hélène.
Bye.